Benoît Thérien. Vous écoutez le meilleur du transport. Truck Stop Québec.
Et il y a cette dimension humaine à Truck Stop Québec qui fait chaud en dedans. Merci Sophie Jacob, recherchiste en or, de nous permettre toutes ces belles rencontres-là, dont celle qui suit. On s'en va du côté de Montréal rejoindre le président directeur général du groupe communautaire L'Itinéraire, Monsieur Luc Desjardins. Bonjour Monsieur Desjardins.
Ben bonjour, ça va bien?
Je suis tellement contente que vous soyez là. J'ai mille et une questions pour vous, OK? Mais je me suis trouvé drôle parce que dans ma tête, j'aime toujours ça faire des rimettes. J'avais envie de vous demander, qu'est-ce que ça mange en hiver, l'itinéraire?
Oh, ça mange beaucoup de choses. Avant tout, ça fait 30 ans qu'on existe. Donc, c'est un projet qui est issu initialement de l'UQAM. Alors, c'est un projet d'étudiants qui a, à un moment donné, dans le 30 ans, décidé de donner la voix aux sans-voix. Donc ça veut dire de donner la voix, de faire exprimer des gens qui ont généralement pas l'opportunité de dire qu'est-ce qu'ils ont à dire. Et pour se rappeler que le 30 ans, ben il n'y avait pas nécessairement les médias sociaux comme aujourd'hui.
Non.
Donc, de vouloir dire qu'ils sont peut-être pas d'accord avec les positions politiques. Et ces gens-là, ben, ce sont des gens de la rue. Alors, fallait les écouter, fallait les entendre. Et bon an, mal an, on est devenu très rapidement un journal de rue. L'itinéraire, c'est le nom du journal de rue. Ça veut dire parcours. Ça veut pas dire itinérance. Ça veut pas dire. Ça veut dire tout simplement parcours. C'est un chemin qu'on prend. Il est soit droit, gauche, plein de curves, bon, ainsi de suite. Là, c'est réellement un chemin. Chacun a son parcours. Et dans ça, ben, on donne l'opportunité à ces gens-là de s'exprimer de différentes façons, soit par le biais d'être accompagné de bénévoles pour écrire qu'est-ce qu'ils ont à dire. Ou tout simplement, il y a des gens qui sont très habiles et qui sont capables d'écrire et de faire des poèmes et ou interviewer le premier ministre. Et c'est ça qu'on fait. Alors, on est un journal de rue, d'ailleurs. On est probablement certainement le plus grand journal de rue au Canada. Et je dirais presque en Amérique du Nord.
Wow! Donc, wow! Félicitations d'abord pour les
30 ans. Et en français!
En français! Mais c'est tellement beau. Là, je m'étais pas imaginé que tout ça était parti d'une folie étudiante, OK? Mais tu sais, quel beau souci de ces gens-là qui trop souvent sont des oubliés, puis pourtant, tu sais, des gens bien présents qui viennent de des familles, là.
Mm-hmm.
Alors,
tout à fait, oui.
Qui se sont trouvés une famille avec vous autres, l'itinéraire. Quand vous dites, là, si vous faites référence aux camelots, les camelots, c'est-tu tant ceux qui vont le vendre dans la rue, votre journal, que aussi ceux qui rédigent dedans? C'est tout le monde qui est camelot?
Hein? Oui. Non, c'est pas tout le monde qui est camelot. Nous autres, on offre pas juste l'écriture du magazine. Je pourrais en parler tantôt, là. Je vais pas tout dire tout de suite au début. Mais on gère aussi 3 cafés de réinsertion sociale. On fait du logement social, on fait de l'aide alimentaire. On a des programmes de mentorat. Bon, en tout cas, bon, le spectre est très, très large. Mais principalement, effectivement, alors nous, les camelots rentrent dans un programme. Alors, c'est pas tout le monde dans les camelots qui écrit. C'est pas tout le monde qui veut. Alors, ce sont des personnes qui vivent de la précarité sociale. Alors, je dis pas 100% itinérance, il y en a qui proviennent de l'itinérance que l'on connaît, que c'est l'itinérance visible là, qu'on voit dans la rue. Là. Et mais il y en a d'autres qui viennent de la précarité sociale. Ils ont des enjeux parce que nous, notre mission, c'est d'aider tous les 18 ans et plus qui ont de la précarité sociale, des enjeux de toxicomanie et de santé mentale. Parce que la toxicomanie amène la santé mentale peut amener la toxicomanie. Donc, c'est un amalgame de tout. Alors, on traite ces enjeux-là. Et par le biais de l'écriture, par le biais de rencontres qu'ils font, et effectivement, les camelots sont des personnes qui sont des mini-entrepreneurs, parce qu'ils apprennent à être mini-entrepreneurs, parce que c'est lui qui achète, lui ou elle, qui achète son magazine, puis après, ça s'en va l'acheter. Donc, il l'achète à nous. Après ça, il s'en va sur des endroits prédéfinis et il vend. Mais vu qu'il est un mini-entrepreneur lui-même, il n'y a pas de quota. Les quotas, c'est lui-même qui les fixe. Il n'y a pas de gestion. Il faut qu'il apprenne à faire la gestion des stocks parce qu'il y a avec lui, s'il achète 50 magazines puis il n'est pas capable de les vendre, ben il est pris avec. Ben là, c'est pas très, très rentable. Donc, officiellement, il faut qu'il gère ses stocks, il faut qu'il gère sa clientèle. Il faut qu'il construise sa clientèle en fonction. Donc, on a des trucs, on a de la formation. Il commence tranquillement. Les nouveaux qui arrivent chez nous, on leur donne des opportunités d'être dans des endroits où est-ce que c'est à fort rendement. À fort rendement en population, mais aussi en sensibilisation. Ça veut dire des personnes qui sont sensibles à la cause, qui peuvent peut-être l'encourager à acheter davantage de magazines. Après ça, ben ces personnes-là construisent une clientèle qui grandissent avec nous. Et ça lui donne une opportunité de faire un petit peu plus d'argent. Puis le petit peu plus d'argent, ben ça lui donne en même temps l'opportunité de s'en sortir. Oh. Ça veut dire de probablement avoir un appartement, tout ça. Alors, faut pas considérer que quand un camelot vend son magazine, puis on lui donne, mettons, 2 piastres de plus, ben, qu'il va se le mettre dans le nez, qu'il va aller boire, qu'il va... Pas partout, là. Je veux dire, le programme comme tel à l'itinéraire, c'est aussi de sensibiliser ces personnes-là à mettre un peu d'argent de côté, à gérer ses finances, à agrandir. Mais si on fait pas ça entre le lundi et le mardi, là, on fait ça, ça prend des semaines, des mois. Et à un moment donné, ben ces personnes-là, on les replace dans des appartes et on leur donne des structures. Puis à un moment donné, ben ils quittent. Ils quittent le nid, ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 3 ans, 5 ans. Après ça, ils quittent le nid pour pouvoir aller être gérant dans un Jean Coutu, chez Métro, être camionneur aussi. Donc, alors, c'est ça.
Hey, c'est une grande entreprise de dignité. Je lisais des témoignages sur votre page web à l'itinéraire. Mm-hmm. J'ai Joseph Mathurin Clermont ici. Lui et Camelot, son spot, ouais. Lui, c'est le marché métro Sainte-Catherine-d'Orion. Il dit, ça m'a pris du temps avant de vendre parce que je suis orgueilleux. Ils m'ont sorti de la rue malgré mon mauvais caractère. Dans ce temps-là, j'en avais dedans. Malgré la maladie, j'essaye de m'en sortir, d'avoir une bonne vie. Je suis heureux de vendre l'itinéraire. J'espère continuer un bon bout, de connaître du nouveau monde. C'est le monde qui me tient quasiment en vie. Ça me donne un regain de voir du monde, de parler avec eux.
Oui. Alors, ce que Mathieu vient juste d'écrire, c'est faites-le fois 150. C'est à peu près 150 personnes qu'on aide annuellement puis qui est dans le programme. Alors, la phrase que Mathieu a exprimé, mais c'est officiellement la même pour tout le monde, de différentes façons. Alors, ils viennent avec des enjeux, puis on fait quelque chose qui est peut-être des fois oublié aujourd'hui, là, en 2025, c'est d'écouter les gens. Mmh. Donc, on les écoute, puis on va à leur rythme. Alors, c'est ça qui fait différent probablement d'aller au rythme de chacune des personnes, non pas d'avoir un cadre, un moule, un petit carré, des petites cases, puis que tout le monde doit fitter dans des petites cases. Donc, notre rôle à nous autres, c'est justement, chacun a sa case, puis elle n'est pas toujours carrée, elle peut être triangle, rectangle, cercle, puis elle peut être le lundi un carré, le mardi un triangle. Donc, alors faut qu'on s'ajuste à ça, et c'est ça qui fait notre plus grande force. Puis ça fonctionne très bien d'ailleurs.
J'ai toujours, je vous écoutais, puis j'ai toujours en tête, tu sais, dans le Pink Floyd The Wall, là, quand il y avait la machine à saucisses, là. On n'est pas toutes faites pour être pitchées dans la machine à saucisses. Puis tu sais, ils ont tous des parcours différents, tu sais. C'est comme, dans l'anarchisme, il y a quelque chose de beau aussi, là.
Les parcours, tu sais, on vient pas au monde dans la vie, puis on vient pas au monde en esclavage. Donc, ça, en partant, c'est quelque chose qu'il faut qu'on se rappelle. Moi, j'ai des personnes qui ont des doctorats, j'ai des camionneurs qui ont vécu 20, 30 ans faire du camionnage ou même beaucoup de chauffeurs de machinerie lourde, des grutiers. J'ai du monde qui vient de partout, là, je veux dire, de tous les spectres de la société. J'ai des comptables, j'ai des avocats, j'ai du monde. Alors, à un moment donné, dans la vie, Il y a du monde qui ça pète. Il y a quelque chose, il y a un élastique qui pète à quelque part et ils perdent leur repère. Ça peut être à la fois. Tu sais, je vais faire une image bien simple d'une personne à un moment donné, quand il y a quelques années. Cette personne-là était entrepreneur, avait une entreprise de construction. Plusieurs millions de dollars, là, très, très à l'aise, très très bien établi, ces choses-là. Son garçon se suicide. Son garçon se suicide. Le papa est un petit peu désemparé, on peut comprendre ça. La maman accepte pas beaucoup cette situation-là. Bon, ça va pas bien, ils ont des enjeux... et tout. Puis pendant ce temps-là, lui, il s'occupe pas bien de son entreprise, il paye pas ses comptes, oublie certaines choses. Un an plus tard, ça va pas bien, les finances vont pas bien, les employés sont pas payés. La business va pas bien parce qu'ils ont de la misère à dealer avec le fait, puis c'est très compréhensible, là, que leur fait leur jeune s'est suicidé.
C'est la perte.
La femme, la mère s'est suicidée également.
Ouf.
Alors, le père vit un trouble majeur, commence à aller à l'hôpital, commence à prendre de la médication, décide lui aussi d'en finir, mais il manque son coup avec son pick-up et il arrive avec des vertèbres un petit peu poignées, pas capable de bouger, perd sa business au complet, se retrouve dans la rue après un an et demi du suicide de son fils. Arrive à l'itinéraire, on reconstruit tranquillement. Il y avait déjà, lui, à la base, un bon coffre à outils. Il y avait une bonne base, mais il était perdu. Il était rendu ailleurs, puis ça allait pas bien. Puis la médication qu'il prenait, il en prenait beaucoup plus qu'il devait en prendre. Donc, développer une dépendance sur la médication autorisée par son médecin. Mais c'est ça. À un moment donné, il disparaît. On n'a plus de nouvelles de lui. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est produit. Il disparaît. Et un an plus tard, il arrive dans mon cadrage de porte. Il vient me voir. Il dit « Merci beaucoup, M. Desjardins. Grâce à l'itinérage, j'ai pu m'en sortir. Aujourd'hui, je construis des petits meubles en bois au salaire minimum. Puis je suis maintenant un homme heureux. Puis j'ai une raison d'être. Puis une raison de vivre. »
Oh, vous venez de me mettre les larmes aux yeux. C'est beau, ça! Résilience, hein, quand même, là-dedans, là.
Résilience, mais avec un parcours assez complexe. Mais, alors, juste pour dire que ça peut arriver à tout le monde, à n'importe qui, n'importe quand. On ne sait pas. Des fois, c'est après un accident, des fois, c'est après une rupture. Il y a beaucoup d'enjeux et... C'est ça. Alors, l'itinérance, puis nous, notre rôle à nous, c'est de reprendre les bonnes périodes que la personne avait, les bons moments qu'il avait, puis de les amplifier pour que la personne puisse s'attacher, s'agripper à ces bonnes expériences-là, puis de dire, mon Dieu, j'ai de l'espoir, puis je suis capable de m'en sortir. Puis oui, on s'en sort. Même les plus poqués, puis les plus... Les plus fatigués de la vie, les plus poqués, ça fonctionne.
Mais il faut que vous arriviez sur leur parcours. Le bout qui me manque à l'histoire, c'est parce que là, c'est sûr qu'après 30 ans, non, mais après 30 ans, vous avez, vous êtes connu, vous avez une notoriété dans les grandes régions de Montréal, mais je veux dire, chacun individuellement, des fois, ils sont pas au courant qu'il existe un refuge comme le vôtre. T'sais, comment les gens aboutissent chez vous?
Ben par deux, il y a peut-être deux portes d'entrée. La première, le référencement. Ça veut dire que d'autres organismes... Si vous parlez de refuge, nous, on n'est pas un refuge. On est peut-être un refuge pour pouvoir s'en sortir, mais on n'est pas un refuge dans lequel les gens viennent dormir chez nous ou quoi que ce soit. Mais il y a des refuges à Montréal, la Maison du Père, la Vieille Bonneau, Overy Mission, puis pour le côté des femmes, chez Doris. Puis il y a différents refuges, puis d'aide, d'entraide. Donc, dans ces endroits-là... nous, on a quand même un grand réseau de partenariats. Le réseau d'intervention est quand même large. Il y a beaucoup de monde, mais il est très, très petit. Ça se parle très rapidement. Alors, quand il y a des personnes qui désirent de vouloir grandir, ben ces refuges, ces endroits-là, ces autres partenaires-là, ben savent qu'on existe. Puis, demande à la personne, ben tu vas donc voir l'itinéraire, peut-être qu'ils ont quelque chose à t'offrir, tu peux peut-être avoir la chance de d'embarquer dans le parcours. C'est pas donné à tout le monde. Il y en a qui ils s'essayent. C'est pour ça qu'on a comme trois mois de c'est comme une job, là. Je veux dire, on a trois mois d'apprentissage avant de devenir permanent à l'essai. Mais c'est pas donné à tout le monde. Il y en a qui des fois qui aiment pas ça. Où ils trouvent pas, ben au moins ils l'ont essayé. Puis nous, on est à l'aise avec ça, donc on peut peut-être après ça le référer à un autre organisme pour dire ben regarde, c'est peut-être mieux à tel autre endroit. Ça c'est une porte d'entrée. La deuxième porte d'entrée, c'est la rue elle-même, la rue qui nous parle. Donc moi j'ai un programme qui s'appelle programme AIR, qui est de l'intervention de rue. Alors, j'ai des intervenants qui gravitent dans plusieurs secteurs de Montréal. D'ailleurs, ce programme-là va cette année, en 2025, il y a un projet pilote que la Ville de Montréal va mettre en place. Ben, on l'a mis en place l'année dernière, mais un petit secteur, puis là, ben, on grandit le secteur, en réalité, toute l'arrondissement Ville-Marie, tout le centre-ville de Montréal, là, il va être accompagné de trois organismes, dont nous, qui s'appelle la médiation communautaire. Donc, ce sont des intervenants qui prennent des marches, puis rencontrent des gens dans la rue, puis dans les gens de la rue qui sont couchés à terre, qui sont sur un banc, qui sont dans une entrée de porte, qui sont à la fois soit bonne humeur ou trop bonne humeur ou des fois un petit peu poqué, ou pas mal poqué, ben nous, on les rencontre, on jase avec, on apprend à les connaître de jour en jour, puis à un moment donné, on leur dit ben si tu veux te réchauffer ou te refroidir, là, vu que l'été s'en vient, il va commencer à faire chaud, ben si tu as besoin d'une soupe, d'une sandwich ou quoi que ce soit, ben va à l'itinéraire. Et à l'itinéraire, dans la maison mère, au coin de Lormier puis Sainte-Catherine, ben on a un café qui s'appelle c'est un café de rue qu'on appelle, mais c'est le café de Monsieur Paul, à l'hommage d'un bénévole qui a fait du bénévolat chez nous 20 de temps, 35 heures semaine sans être malade. Donc quand il a décidé de quitter après 10 ans, après faire 35 heures par semaine sans prendre de vacances. on lui a donné le nom du café.
C'est donc, un bel honneur, oui.
Oui. Puis là, à Montréal, ce café-là, est quand même assez connu par les gens de la rue. Puis la personne, vient manger, vient s'asseoir, vient... je vais être très honnête, vient chialer, vient critiquer, vient faire tout. Mais il vient aussi avec d'autres camelots. Parce qu'il y a une mixité, là, proprement dit. Donc, il y a d'autres camelots. Donc, d'autres personnes qui étaient comme lui, peut-être là, un an, deux ans, trois ans, qui s'en sortent, qui ont atteint un autre niveau de progression. Puis, il y a des intervenants sur place. Puis là, la personne, admettons, il s'appelle Jean-Guy, ou Michelin. Puis là, ben Michelin, à force d'aller manger des sandwichs, puis prendre une soupe, puis prendre un repas pâté chinois, n'importe quoi, là. Je veux dire, on a des repas tous les jours, là. Ben, va à un moment donné exprimer. Ça vient de soi. L'être humain est fait ainsi, là. Il va s'exprimer pour dire, ben, je suis bien ici. Je suis tanné d'être dans la rue. Je suis écœuré d'être en cuir. Je suis tanné d'avoir fait. Toutes ces choses-là font en sorte que on s'aggrave. Nous, on prend ça au vol, puis on dit, ben, ça te tente-tu de rester un petit peu plus longtemps? Ça te tente-tu de participer à quelque chose avec nous autres? Ça te tente-tu réellement de sortir de la rue?
Hein, des nous, bons ben, conseils, puis des bons on exemples. Ça, ben oui, fait que là, oui. Tout se tire vers le haut rendu là.
Tout à fait. Donc, ce sont des façons qu'on fait et ben ça fonctionne. Je veux dire, c'est ça. Donc, ça, c'est un des cafés qu'on a qui sert principalement il est ouvert au public. Mais c'est principalement 95% du monde de la rue qui vient manger chez nous. On est c'est ça. Ils mangent bien. Arrêtez toute la. Je vais dire quelque chose, c'est drôle à dire. Ils mangent bien. tout le personnel mange la même bouffe. Donc.
dans la chanson des Cowboys fringants, ils disent à un moment donné, il n'y a plus d'amour dans la soupe du jour. J'ai envie de penser que dans votre soupe du jour, il y a de l'amour.
Hein. Il y a beaucoup d'amour. beaucoup d'amour.
Hey, parlez-moi d'un autre café que vous avez, le café Maison Ronde.
Bon, alors, le café de Maison Ronde est... l'itinéraire est un organisme national. Hein. Je veux dire, oui, je suis à Montréal, mon siège social est à Montréal, mais j'ai des camelots à Laval, j'ai des camelots à Brossard, j'ai des camelots à Longueuil. Je pourrais bien avoir des camelots en Gaspésie demain matin si j'avais l'opportunité d'être avec un autre organisme en partenariat. Je pourrais être à Rimouski, je pourrais être à n'importe quelle ville, je suis pas juste ancré à Montréal. Cependant, à Montréal, nos bureaux sont à un bout de l'arrondissement Ville-Marie. Puis à l'autre bout de l'arrondissement Ville-Marie, proche de la rue Atwater et Sainte-Catherine, il y a au métro Atwater, la mouture, l'ancien forum de Montréal.
Oui.
Il y a un petit square, un petit parc qui s'appelle le Square Cabot, le Cabot Square, là, comment qu'on le nomme. Et dans ce square-là, il y a une Vespasienne. Alors, des Vespasiennes, c'est un mot français qui prône des toilettes. Alors, à Montréal, je vais faire une petite tranche d'histoire. À Montréal, au début du siècle, ça veut dire 1900, là, ce siècle-là, là, pas celui récemment, là, mais ce siècle-là, 1900, ben, le maire Camien Houde avait décidé d'installer dans plusieurs parties de Montréal des toilettes publiques pour que les gens puissent aller prendre leur douche et tout, parce qu'on avait un problème de salubrité humaine là, à Montréal. Et c'est pas tout le monde qui, au début... de ce siècle-là avait l'eau courante puis l'eau chaude puis ces choses-là.
Bien
donc il a fait construire des squares. Alors le square Phillips, le square Ligier, le square. Alors tous ces petits squares-là. Donc le plus gros est en face de la basilique Notre-Dame à Montréal. Et sous terre, ben il y avait des toilettes. Et la Vespasienne, c'est comme la porte d'entrée pour descendre sous terre. Bon, là il y a plus ça. Il y a plus de toilettes. Là, ça n'existe plus. Là. Donc, dans notre cas, nous, la Vespasienne, la Ville de Montréal, nous la prête. Et on a construit un petit café, un café de rue. Quand je dis un petit café, là, parce que c'est gros comme une petite chambre de bain. Okay? il rentre trois personnes, puis c'est à peu près tout. Donc, on est réellement un café de rue. Ça veut dire qu'est-ce qu'on sert? Ben, on le sert dans la rue comme tel, dans le square. Et c'est construit pareil comme le magazine que je vous ai parlé tantôt. La même chose. Alors, ça veut dire que c'est au lieu d'un magazine qu'on fabrique, là, je veux dire qu'on fait papier, qu'on écrit des textes, ben on fait un café bistro, là. Donc on fait des cafés, c'est un cours de barista qu'on donne. Et ce café-là est principalement notre clientèle et la communauté autochtone. Donc, c'est la communauté autochtone de Montréal. Alors, ça inclut les Premières Nations puis les Inuits. Alors, autochtones inclut les Premières Nations et les Inuits.
Métis?
Et, pardon?
Mais les Métis aussi?
Les Métis aussi. Là, il faut faire attention sur comment qu'on parle de ça.
On l'interprète, oui.
Je ne peux pas embarquer là-dessus. Mais oui, les Métis aussi. Nous, au niveau autochtone, c'est des personnes qui proviennent majoritairement Inuits qui proviennent du nord du Québec, mais j'ai beaucoup de personnes qui proviennent de l'Ouest canadien, qui viennent ça, parce que Montréal est quand même un lieu de rassemblement en milieu urbain très fort au niveau autochtone. Et ce coin-là, historiquement, a une forte densité de personnes. Il y a à peu près 3500 personnes autochtones à Montréal. Ils ne sont pas tous en itinérance, là. Je rassure tout le monde. Il y a du monde qui travaille et qui ont des jobs, mais il y a d'autres personnes qui vivent des difficultés. Et il n'y a pas beaucoup de services. Nous, on n'est pas en service immédiat. Ça veut dire qu'on n'est pas un refuge, rien de ça. Mais nous, on est en préemployabilité. Donc, nous, on est les gens sont référés par des organismes autochtones qui viennent chez nous et embarquent sur un programme qui se divise en trois axes. Le premier, c'est mon programme de rue, mettons, phase 1. Là. Alors, ça, je prends quelqu'un qui est réellement qui a besoin de beaucoup d'aide, là, OK? Qui est en précarité sociale très sérieuse. Et je lui demande de venir faire des quarts de travail. Puis ces quarts-là de travail sont rémunérés. Et à partir de ces quarts de travail-là, ben la personne qui en fait de plus en plus. Alors, ça vient pareil comme mon café des gens de la rue qui viennent manger mes sandwichs. Donc, il vient faire le quart de travail. Il vient faire d'ailleurs, en passant, c'est probablement la seule place à Montréal où est-ce qu'on peut manger, prendre un
super bon café. C'est ça que j'allais dire en plus, mais y a-tu même un menu autochtone qui vient avec ça?
Oui,
on peut-tu manger?
Il y a un menu autochtone, oui.
Wow. Mange,
tout est fait avec de la bannique. Je vais vous dire de quoi, si vous voulez manger de la bannique sucrée, ça c'est de la bannique avec du chocolat blanc dedans puis du sirop d'érable. Et non, c'est super bon. En tout cas, c'est excellent. Puis il y a plein de choses faites tout avec de la bannique au complet. Là. Donc, alors, cette personne-là, ben, vient, participe, et à un moment donné, ben, il va dire qu'il est allé d'être dans la rue. Donc, s'il est allé dans la rue, il embarque dans le projet 2. Le projet 2, ça veut dire qu'on prend cette personne-là pour à peu près 26 semaines. Il devient un employé de l'itinéraire et il va faire 35 heures. On le retire de l'aide sociale et de tous ses avantages. Et pendant 26 semaines, ben il travaille avec nous, mais on l'accompagne dans tous ses enjeux inimaginables. Là, ça veut dire, il vit. Il est possible que maintenant, il y a une participante qui va pas se présenter lundi, mardi, mercredi, va arriver jeudi, travailler. Puis là, on va lui demander, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi t'es pas rentré. Là, on va dire, elle s'est fait violer, elle a passé 3 jours à l'hôpital pour gérer ses blessures. Donc, nous, on va prendre cette personne-là et on va la supporter psychologiquement et on va l'accompagner toujours en faisant son projet. Au bout de ça, on a un taux c'est des petits quoi, c'est à peu près entre 7 et 9 là, personnes et 80% réussissent à sortir de la rue et soit retourner aux études ou aller travailler dans des entreprises qu'on réfère. Puis là, nous, on s'est rendu compte que des fois, quand on les réfère dans d'autres entreprises, ben ils vivent, ils ont des enjeux, puis sont autochtones. Alors, ils vivent des choses qui sont pas cool, des fois.
Non.
L'acceptabilité, les préjugés, beaucoup de billets, beaucoup de monde. Hein. Le petit Québécois moyen pense que tous les Autochtones sont sous puis sont tout proches. En passant, c'est loin d'être ça. Là. Alors, nous, on a décidé de partir à un troisième café. donc qui est juste en face du Café de la Maison Ronde, qui est au centre culturel, arrêté le centre Sanac. C'est un nouveau centre qui est ouvert par la Ville de Montréal depuis une semaine. Et à l'intérieur de ça, il y a un café. Et un café style Starbucks. Là, c'est... Là, on est dans le on n'est plus dans le café de rue, on est dans un café un petit peu plus chic puis un petit peu plus cool, là. Je veux dire, avec une musique d'ambiance et bon et tout ça. Et à l'intérieur de ce café-là, ben on va devenir l'employeur des personnes qui vont sortir de Mont-Valérie pour pouvoir les accompagner plus longtemps.
Hey, mais c'est tentaculaire, votre affaire, là. Ça veut dire que, tu sais, vous grossissez tout le temps, puis ce faisant, vous rejoignez toujours de plus en plus de gens dans le besoin.
Effectivement, de plus en plus de gens. L'itinérance grandit, grossit. L'itinérance se définit avec plusieurs aspects proprement dit, là. Je veux dire, c'est pas juste la toxicomanie des fois. Des personnes qui ont perdu leur logement, des couples. Ça grossit. Ça grossit. Et malheureusement, ben, le gouvernement ne va pas à la même vitesse que la société actuellement.
Non. Non, j'ai l'impression que des fois, c'est comme ils font par exprès pour vous aider. Parce que, tu sais, on devait réviser, entre autres, tout ce qui est le judiciaire. Parce que souvent, les personnes qui dorment sur un banc, tu sais, il s'agit d'une petite affaire dans l'espace public. Ils se ramassent avec des infractions. Tout ça se ramasse dans le système judiciaire. On devait un peu adoucir, hein, réviser les règlements municipaux. Finalement, votre mairesse a annoncé que ça arrivera pas parce que dans le municipal, on n'arrive pas à s'entendre.
Ah ben ça c'est des oui ok alors je peux pas ne pas être en accord avec ça. Par contre je peux dire qu'il y a quand même des efforts, mais les efforts sont pas je l'ai écrit beaucoup souvent on est pas mal dans des efforts ponctuels. Le gouvernement fait des fois un petit show, un petit spectacle, donne des sous pour dire hey, regarde, on a fait telle affaire. On le fait ponctuel, on n'est pas sur la pérennité. On n'essaye pas de construire à long terme. Je vous parle du programme de la Maison Ronde. Ce café de rue-là, il est unique au Canada. Mm. OK, il n'y a pas un autre endroit, il n'y a pas une autre ville, il n'y a pas un autre gouvernement qui a décidé de donner à un organisme le concept de ce café-là. C'est réellement issu de l'itinéraire. C'est un concept qu'on a construit, mais qui peut être exportable. Moi, j'ai aucun problème d'en parler avec plein de monde et de dire gros, je te donne le concept, puis après ça, ben fais qu'est-ce que tu veux avec, puis faites-le. Il est unique au Canada. Ça fait 9 ans que j'ai parti ça. Ça fait 9 ans qu'il est unique au Canada. Et ça fait 9 ans que je me bats tous les ans pour pouvoir avoir du financement. Puis de faire comprendre au gouvernement que c'est un aspect humain. Puis l'humain, ben on peut pas le mettre toujours dans une case. Alors, c'est à peu près ça.
vous savez qu'il y a une erreur. Je vous coupe, Monsieur Desjardins, mais il y a une erreur dans le calcul du gouvernement, OK? Puis ça, c'est prouvé même parce que maintenant, tu as des gens au doctorat qui vont faire leur thèse là-dessus. C'est que de penser que le communautaire n'est qu'un gouffre d'argent, OK, qu'il n'y a pas de retour de ça, c'est une erreur. Parce que mathématiquement, ça te revient en positif. C'est faux de penser que le dollar investi, tu le donnais quelque part, que tu ne le reverras pas. C'est le contraire. Il va revenir sous une autre forme.
Ben, je suis content que tu me dises ça. je suis bien content que tu parles de ça parce que nous, en 2024, on se posait une question fondamentale à l'itinéraire en tant qu'organisme. Alors, nous, on sait qu'on fait une bonne job. Les employés le savent. On le sait. On sait qu'on est du monde empathique, qu'on est là pour aider. Puis, quand quelqu'un vient nous dire « merci beaucoup », de m'avoir sauvé la vie, ben moi c'est ma paye. Alors ça je le sais. Mais par contre, c'est difficile de toujours, tu sais, je peux bien compter des histoires puis des anecdotes, mais c'est difficile de le prouver. Alors nous, on a engagé une firme. Pourquoi la nommer? Elle s'appelle Apeco, qui est la même firme que l'Union des municipalités a engagé l'année dernière pour démontrer que sortir quelqu'un de la rue puis lui donner un appartement, ça coûte 110 000 $, puis ça coûte moins cher que de le garder dans la rue. puis au niveau des frais hospitaliers, puis ces choses-là, qui était un move que les municipalités voulaient exprimer au gouvernement pour avoir plus de logements sociaux. Alors nous, on a engagé cette même firme-là pour nous psychoanalyser. Ça veut dire nous analyser nous autres-mêmes. Alors oui, j'ai des états financiers, oui, je sais que j'ai mis tant d'argent à telle place, que j'ai investi dans telle affaire, j'ai acheté des patates, j'ai acheté du bacon, puis ces choses-là, j'ai nourri du monde. Mais qu'est-ce que ça vaut réellement avec le marché et avec le monde? Et on s'est sorti de là. Alors, c'est une compagnie totalement indépendante, c'est pas une étude de nous autres. Moi, je l'ai payé à fort prix, cette étude-là. Là, j'ai engagé la firme, puis j'ai dit, ben, psychoanalyse, puis après ça, on verra. Alors, peut-être qu'on est dans le champ, puis peut-être ça. Alors, nous, c'est très clair. L'année dernière, on n'avait pas tout plein de statistiques. Il nous manquait des affaires, mais c'est pas grave. Alors, selon l'analyse, $1 investi à l'itinéraire, c'est l'équivalent de $6.
Et voilà.
Donc, alors, alors nous, à l'itinéraire, l'équivalent, c'est pas des blagues, l'équivalent d'avoir 30 employés chez nous, l'organisme, la façon que c'est structuré, les 30 employés génèrent, si on était dans le privé, comme si on était 50 employés. Alors, là, c'est pas le fait qu'on produit plus, là. Moi, je fais pas d'aluminium, je fais pas, je répare pas des moteurs, bon, je construis pas quelque chose qui est physique devant moi, je construis l'être humain. Et donc, alors, ma construction, le moteur, le style, le ça, le mental, ça, on pourrait tout décortiquer ça entre un camion puis une personne, là, puis mettre des liens, là. C'est le cœur, ben, c'est le moteur, puis le cerveau, ben, c'est le fuel pour
le
reste.
C'est le bon gaz.
Donc, c'est ça, puis les deux jambes, ben, c'est les roues, bon, ainsi de suite. Alors, moi, je construis officiellement, je reconstruis, je fais de la mécanique sur une personne. Mais ça vient avec ses complexités. Donc, effectivement, investir $1, ça veut dire $1 en don, $1 en investissement gouvernemental, j'en génère $6. Donc, c'est simple, là, je veux dire, alors, si on investit, puis alors, nous, on roule principalement sur des dons, on roule principalement sur des projets du financement du gouvernement, ben, des trois paliers du gouvernement, là, fédéral, provincial, mais municipal, oui, mais municipal, au niveau des itinérances, ça vient pas mal plus du provincial.
Du provincial,
ben, ça vient du fédéral. Alors, ça fait bien du monde à jaser, mais... Oui, non, des fois, ça fait drôle des fois.
Ben, au moins, vous parlez bien, M. Desjardins. Fait qu'il y a au moins ce bout-là est déjà réglé, mais moi, pour moi, c'est indéniable que les retombées ne sont que positives et que c'est un investissement. Sophie Jacob, la recherchiste qui nous a mis en contact aujourd'hui, OK, m'a laissé quand même une question bien importante pour elle parce que je pense qu'elle aussi est touchée par ce que vous faites puisque parce que les gens arrivent à faire grâce à vous, OK. Elle se demande si, parce que tu sais, je lisais entre autres, là, vous offrez une bourse, là, Gabriel, cette année, votre camelot photojournaliste, mm-hmm. il l'a. Fait que à un moment donné, mm-hmm. quand il y en a un qui réussit, en plus, vous lui donnez là, une boîte à outils de plus pour qu'il se lance, oui. tu sais, puis qu'il devienne ce oui. qu'il a rêvé d'être. C'est beau, ça? Elle se demande, Sophie, oui. s'il n'y aurait pas des candidats potentiels dans les gens que vous aidez pour le monde du camionnage.
La réponse à ça, je vais être. Je vais répondre en trois façons. La réponse vite, parce que c'est Luc Desjardins qui parle, puis Luc Desjardins innove, puis il aime ça. La réponse, c'est oui.
Yes.
Est-ce que j'ai un candidat actuellement devant moi prêt à relever ce défi-là? Non. Est-ce que je pourrais avoir un candidat très prochainement? Oui. Parce que tout se prépare. Alors, les opportunités... comme tel, ça se prépare. Oui, j'ai des gens, moi, qui ont déjà été camionneurs. Donc, je veux dire, c'est juste que là, ils ont vécu des mauvaises passes. Mais si, je donne un exemple, parce qu'il n'y a pas de sous-métier dans la vie, by the way, là, tout est bon pour pouvoir s'en sortir. Alors, si demain matin, l'Association des camionneurs ou vous autres, ou n'importe quelle autre entreprise aimerait bien s'impliquer, ben on s'assoit puis on jase ensemble. On a fait la même chose dans le milieu de la construction sur un ou deux chantiers pour pouvoir accompagner des gens. Je le fais avec les pompiers. Je l'ai fait avec d'autres corps de spécialisés, mais avec le camionneur, j'ai pas eu l'opportunité. Mais là, si l'opportunité serait là de faire un match, ben on s'assoit. Puis je veux dire, quelque part, ça veut pas dire qu'il peut être camionneur, il peut être mécanicien, il peut être gopher dans l'entreprise. Il y a beaucoup de
toutes les possibilités choses. Sont là. Oui, tous les corps de métier, en fait, présentement.
Ben
il y a,
oui,
y a un manque.
Tous les corps de métier.
Ben oui.
Ben, ouais, oui, même à la limite, signaleur dans le parking. Je sais pas, là. Je connais pas votre réalité à 100%. Mais j'ai, tu sais, dans le cas de Gabriel, ben, lui, son rêve, il l'a appris avec nous autres. Puis son rêve, c'est de devenir photographe. Puis la bourse paye un cours de photographe avec des gros professionnels. Puis il y a eu des photos que lui a produites qui ont paru dans la presse plus. Puis il veut devenir photojournaliste. Alors, c'est un domaine qu'on connaît, puis on est capable de l'accompagner. De l'autre côté, j'ai plusieurs, moi, qui sont devenus des gardiens de sécurité. Qui ont suivi leur cours, puis nous, la bourse a servi à payer l'équipement. Tu sais, une personne en précarité là, qui a de la difficulté, puis qui s'en va suivre son cours pour devenir gardien de sécurité, puis s'est engagé par une entreprise, puis l'entreprise a dit, ben ça te prend des bottes puis une ceinture. Ben, les bottes, ça coûte 250$, puis une ceinture, ça coûte, je sais pas moi, 75-100$. Mais cette personne-là a pas le 300$ dans ses poches. Donc, il va devoir encore continuer à être camelot, continuer à vivre, puis à essayer de trouver, de gratter. Plus le temps avance, plus que peut-être des fois l'intérêt de sortir va diminuer. Puisque la personne va revenir dans ses anciens patterns. Alors, pour nous, c'est de dire, ben regarde, t'es prêt à sortir, c'est beau, t'as suivi ton cours, tu l'as passé, t'as une job, là, la compagnie t'attend. La seule chose qui te reste, c'est d'acheter des bottes puis une ceinture, on va le faire, ça. La bourse fait ce genre de choses-là pour que la personne puisse tout avoir ses bottes, ses affaires, puis dire « Youpi, je m'en vais travailler lundi matin, je m'en vais trouver une job. » Alors ça, c'est ça qu'on fait.
Vous avez une qualité qui est rare et pourtant qui est vitale à une époque comme la nôtre, l'adaptabilité. Je trouve ça beau que vous arriviez à vous marier toujours aux nouvelles réalités, aux individus, à ce qu'il y a dans son cœur. C'est de toute beauté. La géographe en moi, OK, peut pas vous laisser aller sans vous poser une question, qu'on ait un portrait vraiment global, pas juste du Québec même, parce que souvent, je trouve que dans la plaque migratoire des itinérants, je m'imagine toujours qu'il y a un lien entre Vancouver puis Montréal. Qu'est-ce qu'on, la population, est-ce que d'itinérants, est-ce qu'elle est toujours en croissance? On a-tu une surpopulation? Elle bouge-tu tout le temps? Puis celle de Montréal, est-tu stable?
Elle est en croissance. Moi, je vais vous dire, sur le terrain, elle est en croissance. C'est probablement des instances gouvernementales qui vont dire l'inverse, là, mais elle est en croissance. Je l'ai dit tantôt, elle est en croissance plus rapidement que les organismes et la société est capable de s'entraider. Est-ce qu'il y a de bonnes initiatives? Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a du monde qui veut l'aider? Oui, tout à fait. Est-ce qu'elle est de plus en plus présente en région? De plus en plus, depuis 2-3 ans, on entend beaucoup de maires et beaucoup de monde en parler. Elle a toujours été là, hein, by the way, l'itinérance, même en région. La seule chose, c'est qu'on la voyait peut-être pas. Faut comprendre qu'au Québec, pendant très longtemps, puis il y a encore ça, le badge qui est là sur le balcon là, qu'on laissait là, puis qu'on se levait le matin à une certaine époque, puis la personne accouchait, puis on lui donnait un petit déjeuner, puis du pain, puis des affaires, après ça, elle partait, la femme allait dans un autre village ou même ailleurs dans le village, un petit peu plus loin sur le banc de l'autre. Alors ça, le badge qui est c'est quoi? C'est des itinérances hein, comme telles, là, parce qu'il n'y avait pas de parc avec des bancs, là, puis le monde, ben, c'est ça, d'attitude. Alors, ça existait, on la voit moins, là, on la voit plus, parce que faut comprendre que Montréal commence à avoir du monde, puis ben, les gens bougent, les gens vont où est-ce qu'il y a des services. Il y en a beaucoup à Montréal, il y en a beaucoup à Québec, dans Saint-Roch, ces choses-là. Puis après ça, ben, dans d'autres régions, c'est la même chose. Alors, on la voit, 5, 6, 10, 15, 2, 3 tentes à côté du parc de la mairie. À la fois, ça frustre les citoyens, à la fois, ça dérange. À la fois, ben, on veut aider, mais des fois, il y a des villages, il y a des endroits où ils sont pas d'organismes communautaires proprement dit à faire ce genre de travail-là. Tu sais, nous, on est chanceux à Montréal, on a quasiment des spécialités, mais on s'en va dans d'autres régions, dans l'Outaouais, là. Il y a un organisme qui fait à peu près 12 spécialités dans le même organisme. À un moment donné, l'organisme est comme pas mal saturé, là, en service, entre la pop-up populaire, puis entre ci, puis en aidant les aînés. Puis, alors oui, c'est en croissance, il faut s'adapter. Les organismes sont vitales. Sont vitales, faut les écouter. Puis faut travailler avec eux.
Il faut les aider. Puis tu sais, je suis pas capable de.
Il faut les aider.
Oui. Puis les hivers sont tellement rudes ici. Tu sais, c'est ça. La période d'hiver pour moi là, c'est le moment que j'ai le plus. J'ai toujours de l'empathie pour eux autres, mais l'hiver, c'est comme, je voudrais pas le vivre une seule nuit. Tu sais.
Non, mais je peux te dire juste une chose. L'hiver, elle arrive à toutes les hivers. elle arrive tout le temps. Tu sais, on est au Québec, alors l'hiver est frais. On est supposé de l'avoir. Beaucoup de journées, pas beaucoup, c'est pas grave, on le sait qu'on va en avoir. Moi, ce que je déplore dans tout ça, c'est qu'on prend des décisions pour pouvoir gérer l'hiver au mois de décembre, puis des fois au mois de janvier. Alors, on est toujours à la course comme société, puis ça, ben, c'est un petit peu plate, parce qu'on devrait prendre l'avance en avance, puis avoir une certaine pérennité, puis déjà être prête. Comme là, on est au mois de mai, là, puis... s'en va vers le mois de juin, puis on devrait être prêts, là. Déjà savoir quel organisme qui va s'occuper de faire des halles de chaleur cet hiver, qui va commencer, tel jour, telle heure, telle date. On devrait déjà savoir, déjà avoir le budget, déjà avoir le financement. Mais la réponse, c'est non. C'est pas le cas. Et on va être rendu au mois d'octobre, puis là, les municipalités, le gouvernement va commencer à courir, à chercher quel organisme qui va vouloir participer, trouver la place. Alors ça, c'est fatigant.
Ouais.
Ça, c'est mettre de la pression sur du monde. Puis nous, on l'a déjà vécu. Tu sais, trouver 17 employés en l'espace d'une semaine et demie, là, c'est bien beau, là, le manque d'employés, mais ça s'applique dans le transport, ça s'applique aussi dans notre milieu à nous autres. Mais trouver 17 personnes qui sont prêtes à travailler de nuit, des fins de semaine, c'est pas facile. Alors nous, des fois, on a comme une semaine, deux semaines pour servir de bord. Puis après ça, ben on est payé, on reçoit du financement deux mois plus tard.
Ouais. La pandémie a bien montré les limites, pareil, de ce que on était capable de penser d'avance. Là. Finalement, on a vite vu dans le miroir que on n'était pas capable de gérer des situations comme ça, puis qu'on les a vraiment. Je pense que vous devez encore vivre les conséquences de la pandémie, tu sais, parce que psychologiquement, physiquement, ils l'ont eu dur, les gens dans la rue.
Oui, ils l'ont eu dur. On vit les conséquences. On vit l'épuisement des organismes, c'est un peu. Des organismes qui sont épuisés. La société est épuisée aussi. Tout le monde veut du bien de son prochain, mais à un moment donné, on est fatigué. Puis là, après ça, on prend des décisions qui sont pas dans ma cour. Puis là, ben, le pas dans ma cour va dans la cour du voisin. Puis l'autre, le voisin, ben, il dit lui aussi pas dans ma cour. Puis là, ben, après ça, ben. Alors, c'est comme mais c'est parce que faut éventuellement prendre le taureau par les cornes, puis régler ça, puis supporter. Il va toujours avoir de l'itinérance. C'est pas. L'effacer n'existera pas. Par contre, l'encadrer et le supporter mieux, c'est possible.
Ben, je vais souhaiter que parallèlement à ça, il y ait toujours un itinéraire. Merci du fond du cœur de tout ce que vous faites. C'est touchant, puis en même temps, c'est vital. Je vois que la liste de prix honorifiques, c'est interminable. Vous les méritez tous, chacun, OK? Parce que ce que vous faites, c'est de redonner de la dignité, puis un rêve, de l'espoir à du monde. Ça, c'est comme ça. Ça n'a pas de prix, ça vaut tout l'or du monde. Puis tu sais, faut remercier, je vois qu'il y a des grands auteurs qui se sont joints à Tracé littéraire l'an passé pour justement joindre leurs voix, les Michel Tremblay, Patrick Sénécal, Monique Proulx, Ghislain Tachereau. C'est beau de voir que tout le monde vient vous rejoindre en arrière, puis vous pouvez être sûr d'une affaire. Là, l'industrie du camionnage, j'espère aujourd'hui, est à l'écoute. Mettez ça quelque part pour le jour où ça arrivera, que vous aurez un bon candidat. pour nous autres. Mm-hmm. Puis on vous fera honneur, OK? Quand on sera rendu là, soyez certains qu'on va signer en bas de la feuille puis on va le faire ensemble.
Ben merci à toi, Marie, puis merci à Sophie aussi de me l'avoir donné la chance d'être avec vous ce matin. Puis c'est super, super sympa.
Juste pour me rassurer, là, moi avec ma bartende puis ma banane, quand on se croise dans la rue, c'est-tu correct encore, ça, ou c'est vieille mode?
Ah ben oui, c'est bien correct. Ça se peut qu'il va peut-être t'envoyer promener parce que c'est pas ça qu'il veut avoir, la personne. Puis tu lui feras un beau sourire, puis tu lui diras merci beaucoup, puis la titre, puis ta bâtante, puis tu iras la donner à une autre personne, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui va te dire merci beaucoup, puis j'apprécie, puis ça va me sauver. Faut pas prendre ça au premier degré, ce sont des gens qui vivent des choses difficiles, donc, tu lui feras un beau sourire, tu t'en vas, puis tu le donnes à quelqu'un d'autre, puis la titre, tu vas te faire remercier par quelqu'un.
Il y a quelqu'un qui va vouloir de ma bâtante puis ma banane, ça se peut pas. Là.
Oui, tout à fait, oui.
Et je vous fais une promesse en onde, c'est que quand j'irai à Montréal maintenant, ma raison première sera d'aller au café Maison Ronde. Vous êtes certain que je passerai pas à côté. Luc Desjardins, président, directeur général et éditeur de l'Itinéraire. Merci infiniment pour votre générosité. C'était de l'or de vous entendre ici aujourd'hui. Bonne continuation, puis si on peut faire quoi que ce soit, vous gênez pas.
Merci à vous tous.
Merci.
Bonne route.
Encore. Bye bye. Bonne route.